L'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Sans plaisir de vous recevoir, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette édition du journal. D'abord les titres. La politisation des universités et centres de recherche en République démocratique du Congo est au centre d'une alerte lancée par Justicia Aisbel, qui redoute d'une instrumentalisation du monde académique autour du débat sur la Constitution. Elle appelle les gouvernements à orienter davantage les recherches scientifiques vers les défis majeurs du pays, notamment l'insécurité, l'accès à la justice et la gestion des ressources naturelles. Et plus de 23 cas d'une maladie apparentée à la rougeole sont déjà répertoriés dans la zone de santé d'Ihimbi et Boumera, un territoire des Kabarés. La faible couverture vaccinale des enfants et la malnutrition aiguë figurent parmi les principales causes de cette recrudescence. Et en sport, le plus grand rendez-vous du football mondial s'ouvre ce jeudi 11 juin 2026 à 21h, heure de Bukavu, la Coupe du Monde et la FIFA, débute au Mexique avec un match inaugural entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Une des particularités de cette compétition est que désormais il compte 48 participants au lieu des 30 comme auparavant. C'est tout pour le titre, mesdames, messieurs. Myriam Moufano, c'est mon nom, je suis à la présentation, Jean-Claude Ndagé assure la mise en onde. En début de cette édition du journal, disons que l'organisation Justicia Aisbel alerte sur la tentative de politisation des universités, instituts supérieurs et centres de recherche scientifique en République démocratique du Congo autour du sujet du changement de la Constitution. Cette organisation de protection des droits humains fonde ses inquiétudes sur la circulaire de la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation adressée à tous les chefs d'institutions supérieures de la RDC. Détail, Hélène Boudjiriri.
Dans cette dernière, elle convoque un colloque national scientifique sur l'évaluation de la Constitution du 18 février 2006, dont l'objectif principal est de conduire une analyse scientifique approfondie de la dite loi en vue de formuler des recommandations. Justicia Aisbel craint que cette initiative ne consacre simplement une instrumentalisation des universités, instituts supérieurs et centres de recherche à des fins partisanes politiciennes, au lieu de les laisser orienter leurs réflexions pour les savoirs scientifiques et l'intérêt général. Cette organisation rappelle que conformément à la loi cadre du 11 février 2014 sur l'enseignement supérieur, la recherche dans les établissements d'enseignement supérieur et universitaire vise le développement de la science en vue de la transformation de la société. La recherche est le moteur de développement et elle est libre, renchérit cette loi. Justicia Aisbel exhorte ainsi le gouvernement à mobiliser plus de ressources en faveur des universitaires pour la recherche des solutions, entre autres à l'insécurité au pays, l'exploitation illégale des ressources et l'accès à la justice, tout en reconnaissant les droits au gouvernement d'associer les partenaires de l'éducation sur les questions majeures de la vie nationale. Justicia Aisbel estime qu'il est préférable que la recherche scientifique libre soit au service des droits humains et de la paix, au lieu de creuser davantage les fossés de la division et des factions sociales. Pour rappel, ce colloque scientifique se tient du 10 au 12 juin concomitamment à Kisangani, à Lubumbashi et à Kinshasa. Des universités chercheurs de toute la RDC, y compris du Sud Kivu, y prennent part pour contribuer à une réflexion scientifique sur les acquis, les limites et les perspectives d'évolution de la Constitution en vigueur depuis près de 20 ans.
Et jadis réfugiés au Burundi et d'autres déplacés des guerres à Uvira et dans le haut plateau, plusieurs familles des retournés vivent actuellement dans de mauvaises conditions dans différents villages de la plaine de la Ruzizi. Ces familles venaient de regagner leur village à la suite du retrait des troupes de la FSAM 23 des localités des Sangue et Katogota dans les territoires d'Uvira. Ces retournés certes à plusieurs difficultés d'ordre économique et socio-humanitaire, notamment le manque des biens de première nécessité, d'abris adéquats et l'insuffisance des moyens de subsistance. Dans un entretien accordé à Radio Maïdéléo, mercredi 10 juin 2026, Biamungu Shamabapolo, membre de la nouvelle société civile de Vera, indique que la situation s'aggrave davantage à la suite des affrontements enregistrés dans certains coins. Ces affrontements font que les déplacés viennent s'ajouter à ces retournés, accentuant ainsi la vulnérabilité dans la zone. Il plaide pour une assistance urgente de la part des organisations humanitaires et des personnes de bonne volonté dans le but de renforcer la résilience communautaire. Biamungu Shamabapolo est au téléphone de notre correspondant dans la plaine de la Ruzizi, Wendo Joey.
De Depuis le retrait progressif de l'AFC M23, d'Ouvira vers Sangé, de Sangé vers Katogota, nous avons décidé de faire l'identification de nos frères et sœurs qui sont de retour en provenance du Burundi et d'autres qui étaient dans la ville d'Ouvira et dans les hauts plateaux. C'est pourquoi, pour nous, de lancer un cri d'alarme auprès des organisations humanitaires et surtout à la coordination de OCHA, afin qu'il y ait quand même une assistance dirigée particulièrement en faveur des groupes les plus vulnérables, en fait de faciliter la réintégration durable des personnes retournées et renforcer la résilience communautaire.
C'était Nabia Mungu Shabamba Paul au téléphone de notre correspondant dans la plaine de la Ruzizi, Wendo Joé. Et parlons éducation dans cette édition du journal. Les parents d'élèves finalistes du secondaire qui préparent l'examen d'État, loin du toit familial, dans les systèmes communément appelés maquis, sont appelés à surveiller les agissements de leurs enfants. Ceci permettrait de les épargner des diverses conséquences liées à la fréquentation des endroits qui peuvent les exposer, soit aux maladies en cette période d'épidémie, à la délinquance ou encore aux risques sécuritaires. L'appel est de plusieurs parents qui expriment la crainte dans l'hypothèse où les enfants étaient laissés sans surveillance. Il estime que préparer l'examen sous ces systèmes peut exposer les enfants, surtout que certains en profitent pour tomber dans la délinquance. On écoute à ces sujets Jean-Jacques Bagabo, parent et acteur sociopolitique dans la province du Sud Kivu.
Quand nous faisions aussi les sixièmes des humanités, nous avons rencontré certains jeunes dire que non, les environnements dans lesquels ils étaient ne leur permettaient pas de bien assimiler la matière avant d'affronter les examens d'État, et il s'est déplacé soit chez un familier, soit dans un home, soit quelque part où il y a des auditoires. Ils vont là-bas disant qu'ils vont étudier. Mais malheureusement, en y arrivant, ils dévient la mission. Certains se donnent à des actes d'immoralité qui ne permettent plus vraiment à se concentrer. Et il y a de ces filles-là qui revenaient de là étant déjà enceintes. Et c'était devenu vraiment une pratique que nous on décourageait. Et c'est ce que nous pouvons toujours rappeler. Nous sommes à la veille du début des examens d'État. Les parents doivent être vigilants. Ils doivent savoir que le suivi est important. Pas seulement abandonner l'enfant, aller vers ces lieux-là où il pense préparer convenablement sa matière, mais aussi faire le suivi. Savoir il est là avec qui, qu'est-ce qu'il fait, ou carrément organiser des environnements à la maison pour permettre à ce que l'enfant étudie là-bas, parce que les parents doivent toujours être responsables à tous les moments.
Jean-Jacques Bagabo au micro des radios Maïndéléo. Mesdames et messieurs, en cours de diffusion, c'est l'édition du journal. C'est Radio Maïndéléo. Merci de nous rester fidèles.
Radio Maïndéléo, la radio de proximité. Plus et mieux pour et avec ses auditeurs.
Changeons de chapitre à présent et parlons santé dans cette édition du journal. Depuis l'apparition de la maladie à virus Ebola, souche Bondibou Bio, dans l'est de la République démocratique du Congo, 554 cas confirmés, dont 101 décès ont déjà été enregistrés. Ces chiffres sont contenus dans les derniers rapports de la situation épidémiologique publiés par l'Entité nationale de santé publique. Selon ces documents, des 183 patients sont actuellement hospitalisés ou placés en isolement dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Trois personnes atteintes de la maladie ont récemment été déclarées guéries et ont quitté les structures de prise en charge. L'Ituri demeure la province la plus touchée avec 17 zones de santé affectées. Au Nord Kivu et au Sud Kivu, des cas continuent d'être signalés, notamment dans les zones de santé des Katwa, Beni Butembo, Mitimuresa, Oicha, Kalunguta, Kiondo et Goma. Les activités de surveillance, des suivis des contacts, des prises en charge de malades et de sensibilisation communautaire s'y poursuivent dans les différentes zones affectées afin de limiter la transmission du virus. Et avec vous, Omer Moudekereza, plus de 23 cas d'une maladie apparentée à la rougeole sont déjà répertoriés dans les aires de santé d'Imbi et Boumera, village des Kadjoutchou dans les territoires des Kabaré. L'alerte est lancée par Enoch Natché, acteur de la société civile locale et défenseur de droits humains, dans une interview accordée à Radio Maïndéléo, mercredi 10 juin 2026.
Selon lui, cette maladie dont les symptômes sont semblables à ceux de la rougeole se propage rapidement dans la zone et nécessite une intervention urgente des autorités sanitaires sanitaire. Et l'on dit que la majorité des personnes touchées sont des enfants, suscitant une inquiétude au sein de la population. Enoch Nachea estime que cette situation pourrait être liée à plusieurs facteurs, notamment le faible taux de vaccination des enfants contre la rougeole, la malnutrition aiguë qui fragilise le système immunitaire des plus jeunes et le retard dans l'identification et l'isolement des cas suspects. Alors que certains malades sont pris en charge au sein des structures sanitaires plus ou moins appropriées, d'autres continuent de recevoir des soins dans des conditions jugées inappropriées, augmentant ainsi les risques de décès et de propagation. Face à cette situation préoccupante, Enoch Nachea appelle toute personne présentant des symptômes tels que la fièvre, les éruptions cutanées, la toux ou les yeux rouges à se rendre immédiatement dans une structure médicale qualifiée pour une prise en charge adéquate. Il en parle.
Nous lançons un appel urgent aux autorités sanitaires et à toute la population de Kadjoutchou. Une maladie suspectée d'être la rougeole se propage actuellement dans notre village. Plusieurs personnes, en particulier des enfants, sont déjà touchées. Nous demandons à toute personne présentant des signes de se rendre immédiatement dans une structure de santé qualifiée. Nous invitons également les parents à éviter l'automédication et à faire vacciner leurs enfants selon les calendriers recommandés.
Il sollicite par ailleurs l'intervention rapide des autorités sanitaires afin d'évaluer l'ampleur de la situation, renforcer les activités de sensibilisation communautaire et mettre en œuvre les mesures nécessaires pour contenir la propagation de cette maladie.
Merci Omar Moudekereza et quittons Kabare pour la ville de Bukavu. Plusieurs avenues font actuellement face au problème de manque d'eau. Cette situation inquiète déjà plusieurs acteurs sociaux et consommateurs pendant que la saison sèche n'est qu'à son début. Dans plusieurs avenues concernées, les habitants constitués à majorité de femmes et des enfants s'élèvent tôt les matins à la recherche des sites denrées alimentaires. Détail, Expedi Kialo.
C'est le cas du quartier Tchaï dans la commune de Bagira ainsi que les avenues IEGA, Mukukwe et toute la cellule Mungu dans la commune d'Ibanda. Au quartier Tchaï par exemple, plus de 27 cas de choléra ont été recensés dans les mois de mai et juin 2026, alerte la société civile locale. Selon cette structure citoyenne, ces cas seraient liés au problème de manque d'eau dans l'entité. La même situation est observée dans les avenues constituant l'ancienne cellule Giamba respectivement dans les quartiers Panzi et Ndendere en commune d'Ibanda. Si dans certaines de ces entités, les habitants parviennent à obtenir une petite quantité d'eau après avoir effectué des longues distances vers les avenues voisines. Dans d'autres, le lac Kivu, la rivière Ouzizi et d'autres sources non aménagées restent le seul rempart. À l'approche de la saison sèche et en cette période où la province fait face à différentes épidémies comme le choléra et les virus Ebola, des acteurs sociaux s'accordent sur le fait que les services attitrés, à l'instar de la régie des eaux et le gouvernement, devraient activer les mécanismes nécessaires pour prévenir le pire. On écoute à ces sujets Choukourou Louekia, président de l'ancien civil du quartier Tchaï dans la ville de Bukavu.
Nous continuons à lancer un cri d'alarme auprès de la régie des eaux de voir comment servir la population en eau potable. Il y a 5 cas que nous alertons sur ces questions, alors que la population vit dans situation d'exposition. Dans ces mois de mai, juin, nous avons enregistré plus de 27 cas de choléra causés par manque d'eau, l'insalubrité dans des ménages, car si l'eau n'est pas dans des ménages, c'est pour cela que la maladie de choléra vient de frapper la population du quartier Tchaï. Alors que la population avait cherché comment de l'eau. L'eau n'est pas dans certains coins du quartier Tchaï. Nous continuons à alerter la régie des eaux de voir comment accélérer des moyens pour que la population soit servie en eau potable.
D'autres acteurs recommandent aux services attitrés et aux partenaires de passer à une identification des sources existantes mais non aménagées afin de trouver des alternatives aux problèmes de manque d'eau qui pourraient se poser en cette période.
Merci Expedi Kialo. Et avant de parler sport, disons que les ponts Kavevera situés dans la ville d'Ouvira au sud de la province du Sud Kivu présentent déficit avec une fondation qui s'est affaissée et la structure de plus en plus fragile. Ce constat a été effectué sur place par les mouvements citoyens qui expriment l'urgence de la réparation de ces ponts qui donnent accès à la ville d'Ouvira pour les usagers en provenance de la plaine de la Ruzizi et de la ville de Bujumbura au Burundi. Selon Alphonse Mufariji, coordonnateur du mouvement citoyen de la lutte contre les antivalaires pour un Congo émergent, les ponts Kavevera et indélébrement avancés, son écroulement est imminent. Chaque passage de véhicules, de la moto ou des piétons accentue les risques d'un effondrement. Il rappelle que ces ponts sont empruntés journalièrement par des milliers d'habitants d'Uvira et relient des zones commerciales et agricoles clés de cette ville. Sa dégradation pourrait empêcher la circulation de personnes et bloquer les transports de marchandises vers la ville d'Uvira, d'où le plaidoyer de sa réhabilitation urgente. Alphonse Moufaridji en parle dans cet élément.
Ça fait très longtemps que nous avions observé à des dégâts matériels et humains causés par les ponts Kavimvira, se situant à Uvira, dans la ville d'Uvira, quartier Kavimvira, suite à son état de délabrement avancé. Voilà pourquoi nous nous sommes dit d'alerter les autorités, de les rappeler à penser ou à exécuter à des actions de réparation afin de faciliter le trafic, afin de prévenir les risques. Et nous avions appelé les autorités sur ces cas, vraiment dans un très très bref délai, qu'ils puissent quand même intervenir.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Maeneleu. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
Parlons sport avec vous, Expedie Kialou. La Coupe du Monde 2026 de la FIFA s'ouvre ce jeudi 11 juin 2026 au Mexique. Le match inaugural se jouera au stade de Mexico et opposera le Mexique à l'Afrique du Sud à partir de 21h, heure de Bukavu.
Une des particularités de cette Coupe du Monde est de ranger cette fois la RDC sur la liste des participants. Autre innovation majeure, la compétition passe des 48 participants au lieu des 32 comme auparavant, avec pour la première fois la participation des 10 pays africains. Quelle chance accordée à l'Afrique pour cette édition? Est-ce possible pour l'Afrique de faire mieux qu'en 2022? Notre consultant Benico Meroy donne ses impressions.
En passant à 10 participations, dont 9 directement et une par les barrages, l'Afrique a en effet cette fois-ci 10 nations qualifiées à la Coupe du Monde, ce qui est normal vu que la Coupe du Monde est passée de 32 à 48 équipes. C'est devenu plus facile pour les nations africaines de se qualifier. On voit des pays comme la RDC ou le Cap-Vert qui sont qualifiés à la Coupe du Monde, ce qui n'était pas évident les éditions passées où on n'avait que 5 participants. Cette édition, on espère que l'Afrique va arriver à faire minimum autant que l'édition passée où le Maroc avait fini en demi-finale. Des pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire ou même le Maroc encore sont capables d'atteindre ce niveau-là de la compétition. On peut compter sur eux parce qu'ils arrivent quand même ces deux dernières années à battre des grandes nations du football mondial. Le football africain n'est plus complexé face au reste du monde aujourd'hui.
Cet élargissement du nombre d'équipes augmente aussi le nombre des matchs et des groupes. 12 groupes constitués chacun de 4 équipes sont prévus pour un total de 104 matchs. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que le 8 meilleurs troisièmes se qualifient pour une phase à élimination directe inédite qui débute en 16e de finale. Au niveau des infrastructures, la compétition se disputera dans 16 stades officiels, dont 2 au Canada, 3 au Mexique et 11 aux États-Unis, y compris le MetLife Stadium appelé officiellement New York New Jersey qui abritera la finale le dimanche 19 juillet 2026. La RDC joue son premier match le 17 juin face au Portugal. La compétition démarre ce jeudi et l'Argentine remettra son trophée en jeu pour un combat au terme duquel le meilleur l'emportera.
La revue de presse. Radio Maïndéléo capte, vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux parissant à Bukavu et dans la capitale. L'impact de la fermeture de frontières aux Zizi 1 et 2 sur l'éducation des élèves vivant au Rwanda et qui étudient en République démocratique du Congo, mais aussi les réactions après l'adoption par la Chambre basse du Parlement de la loi sur le référendum font partie des sujets écrits par la presse mercredi 10 juin 2026. La revue de presse avec Hélène Boudjiriri.
«
Ebola affecte négativement les secteurs de l'éducation et de l'économie au sud Kivu, c'est le titre du Souverain Libre. Ces médias montrent que les élèves congolais vivant à Kamembe, au Rwanda, sont secoués par la fermeture des frontières des Rusizi 1er et 2 dans la ville de Bukavu. Les autorités éducatives ont obtenu l'autorisation du chef de district de Tiangougou leur permettant de traverser la frontière et passer leurs examens en RDC. La seule condition imposée est que ces candidats restent sur les territoires congolais jusqu'à la fin des épreuves, une situation qui secoue non seulement les élèves, mais aussi les parents qui doivent se débrouiller pour que leurs enfants ne ratent pas ces épreuves. L'autre sujet qui intéresse les médias, c'est l'adoption par la Chambre basse du Parlement de la loi sur les référendums et les vives réactions qu'elle suscite. L'opposition annonce une tempête politique, rapporte Congo Nouveau. Les tri hebdomadaires annoncent que l'Assemblée nationale a adopté le mardi 9 juin la proposition de loi fixant des conditions d'organisation du référendum en RDC. Mais l'adoption intervient en plein débat sur une possible révision constitutionnelle, rappelle les tabloïds, précisant que l'opposition accuse la majorité des préparer les terrains pour un troisième mandat de Félix Tshisekedi. Le texte part maintenant au Sénat. S'il est voté, il n'entrera en vigueur qu'après promulgation. Entre-temps, la riposte s'organise déjà, fait savoir Congo Nouveau. 5 partis, dont celui de Jean-Marc Kabound et Sidé de Martin Fayoulou, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, Envol de Délice Sanga et LGD de Matata Mponyo, ont notifié les autorités de Kinshasa pour un sit-in vendredi 12 juin à 10h devant le palais du peuple. Dans leur lettre, ils invoquent l'article 26 de la Constitution et demandent la sécurisation de la manifestation. En dehors de cette manifestation, l'opposition annonce des activités d'envergure qui évolueront de manière graduelle. Une tempête politique qui vise à dissuader Félix Tshisekedi d'abandonner ses intentions présumées d'un troisième mandat. De son côté, le quotidien précise que, réunis en séance plénière sous la présidence du speaker de la Chambre basse du Parlement, les députés nationaux ont procédé à l'examen et au vote de ce texte stratégique encadrant les recours au référendum en RDC. À l'issue des débats, la proposition de loi a été adoptée à une large majorité de 348 voix pour 2 contre et 1 abstention. Prenant acte de cette adoption, le président de l'Assemblée nationale a souligné l'importance de ce texte dans le renforcement des mécanismes démocratiques et des participations citoyennes prévues par la constitution de la RDC, rapporte ce journal. Après ces votes, actualité.cd signale une fissure au sein même des commissions parlementaires. Le député Émile Assani du LGD ayant suspendu sa participation aux travaux de l'Assemblée nationale dénonce une forfaiture constitutionnelle. Les médias en ligne précisent aussi que le texte législatif a été transmis immédiatement au Sénat pour une seconde lecture. Les potentiels et 7 sur 7.cd reviennent sur l'organisation de la SEC 64 dans sit-in massif vendredi devant le palais du peuple pour faire pression sur le Parlement à la suite du vote de la loi sur le référendum par l'Assemblée nationale. Selon Africa News, les organisateurs précisent que cette mobilisation réunira également des partis et des associations partenaires. L'objectif est d'exprimer leur opposition à un projet de loi référendaire qu'ils estiment destiné à modifier la Constitution. Ils demandent aux autorités compétentes de prendre des mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité des manifestants et le bon déroulement de l'événement.
Et voilà ce qui met fin en cette édition du journal, mesdames, messieurs, présentée par Myriam Mofano, Jean-Claude Ndaguer sur la mise en ordre. Au revoir et prenez soin de vous.